Les exemples empruntés à la France, du moins dans mon esprit, ne le sont que dans la mesure où ils ont une portée plus générale. D'ailleurs, j'ai parlé de l'Espagne, où effectivement le national-catholicisme s'impose de façon encore effroyable, même après l'accès à la démocratie. J'ai parlé du Danemark. J'ai essayé d'ouvrir. Je pourrais parler de Benito Juárez, qui est le grand fondateur de la République mexicaine. Je pourrais parler de Kemal Atatürk, qui a donné le droit de vote aux femmes en 1934, c'est-à-dire 10 ans avant la République française. Donc effectivement, je crois que vous avez raison. Il faut ouvrir sur l'international. Je n'ai peut-être pas pris assez d'exemples, mais c'est vrai que il y a en France un débat, mais je ne pense pas que le débat, si vous voulez, soit uniquement franco-français. Quand je vais en Espagne, quand je vais en Allemagne, quand je vais en Italie, quand je vais en Belgique, quand je suis allé en Pologne, je peux vous dire que j'avais le sentiment que les problèmes se posent à peu près de la même façon. Et en Grèce, quand vous pensez qu'il a fallu que les laïcs grecs luttent pour que la mention de la religion ne soit plus obligatoire sur la carte d'identité, cela veut dire qu'effectivement, il y a une dimension universelle de ces questions qui nous préoccupent. Alors moi, je suis entièrement... En plus, moi, je suis d'origine espagnole, je suis issu de l'immigration espagnole depuis 2 générations, et ce qui m'intéresse dans la République française, c'est justement la portée générale des principes qu'on peut y discuter. Mais je comprends tout à fait votre souci, mais ce n'est pas parce qu'un problème requiert des exemples en France et est discuté en français qu'il est nécessairement propre uniquement à la France. Par exemple, en Espagne, le problème du financement public des écoles privées religieuses est un problème très grave que les laïcs espagnols dénoncent. J'étais au Québec il y a un mois et au Québec, justement, la commission Bouchard-Taylor sur les prétendus accommodements raisonnables, y compris accommodements raisonnables par rapport à l'excision du clitoris, qui est quand même une mutilation du corps de la femme, eh bien, il y a un mouvement laïque québécois actuellement très puissant qui rejette la vision communautarisme de Charles Taylor et des accommodements raisonnables. Donc, effectivement, ouvrons, vous avez raison, ouvrons les frontières pour montrer l'universalité de la laïcité.
Voilà, bon, je m'appelle Alain Azouvi. À propos de l'Alsace-Moselle, je voudrais, si vous le permettez, faire 2 remarques. La première, c'est que, à la distinction que vous avez faite entre le concordat d'un côté et la palette de droits sociaux issus de l'Empire allemand de l'autre, je me permettrais d'ajouter une troisième dimension qui est celle de l'enseignement, qui lui est toujours fondée sur la loi Falloux de 1850 et qui pose un cas particulier que nous n'avons pas à traiter ici, mais qui est une spécificité de l'Alsace-Moselle à laquelle certains peuvent faire référence. La deuxième remarque, toujours sur l'Alsace-Moselle, c'est que j'ai peur malgré tout, Monsieur Peñaruiz, que vous soyez un peu optimiste lorsque vous établissez qu'il suffirait de distinguer que d'un côté nous respectons pleinement les droits particuliers, sociaux et autres, il y a aussi le droit de chasse hein, par exemple, ou les droits de l'artisanat qui sont particuliers, spécifiques à l'Alsace-Moselle, et que cela suffirait pour ensuite faire valider la remise en cause du concordat. En réalité, pour avoir pris quelques contacts, bon, informels, donc je ne prétends pas du tout avoir une parole savante sur le sujet, mais pour avoir quand même pris quelques contacts, j'ai constaté 2 choses. La première, c'est qu'il y a un régionalisme très exacerbé quand même dans cette région, auquel il suffirait de constater que l'impulsion vient de Paris, vient du centre, pour immédiatement susciter une levée de bouclier. Il y a une atteinte à nos droits, etc. Or, cela, c'est mineur, si vous voulez, mais Et surtout, vous avez fait allusion à la tentative Herriot de 1924. La tentative Herriot a échoué, pas parce que Herriot simplement avait lancé un ballon d'essai et puis qu'il a remballé son truc quand ça ne marchait pas. C'est qu'il y a eu une contre-offensive extrêmement violente, vous le savez mieux que moi bien sûr, de la hiérarchie catholique qui continue aujourd'hui avec un argument qui est tout bête, c'est si nous n'avons plus les 56 millions d'euros de financement de l'ensemble des pasteurs et rabbins, nous n'avons plus la possibilité d'exercer c'est le culte. Et cet impôt-là, c'est nous qui le payons, je suis bien d'accord. Mais il ne faut pas sous-estimer, à mon avis, la capacité d'offensive et de nuisance et de mobilisation de ce clergé très très bien organisé pour croire que, encore une fois, il suffirait de bien établir que d'un côté il y a les droits sociaux, de l'autre côté le concordat, et qu'en attaquant le concordat, on n'attaque pas les droits sociaux et que tout se passerait bien. Je ne crois pas. Enfin, j'ai peur que ça ne se passe pas si facilement.
Oh, mais je vous remercie de votre mise au point. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je n'ai d'ailleurs jamais dit, je ne suis pas optimiste ni pessimiste, je n'ai jamais dit que ça se passerait bien. Vous savez, quand on veut faire sauter des privilèges, ça se passe toujours mal. L'histoire nous le montre. Quand on retire des privilèges aux gens, ils ne vont pas se laisser déposséder de privilèges. Ils vont faire un chantage à l'apocalypse, comme fait l'Église aujourd'hui. Si vous ne... Attendez, c'est incroyable. Si les rabbins, les pasteurs et les curés ne sont plus fonctionnaires, le culte meurt. Mais attendez, on va leur dire, mais attendez, est-ce qu'on peut dire ça? Les humanistes de la libre pensée, ils ne sont pas financés? Ils ne sont pas toujours en train de demander à la République des choses? Les francs-maçons, ils ne sont pas financés? Moi, je rejette ce chantage. C'est faux. Et je dirais, comme Spinoza, les religieux vous parlent souvent du ciel, alors qu'en réalité, ils ne pensent qu'à la terre. Hein? Bon, je veux dire qu'il faut quand même arrêter. Il faut avoir le courage. Attendez, Jaurès et Aristide Briand ont eu le courage de dénoncer le concordat. Je veux dire, depuis quand est-ce que l'invocation de la résistance des privilégiés doit nous dissuader de briser leurs privilèges? Si les révolutionnaires français avaient eu peur de la résistance des privilégiés, il n'y aurait pas eu le 5 août 1789 où on a aboli les privilèges. Il faut arrêter avec ça. Alors, maintenant, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, comme vous savez, moi j'étais dans la commission Stasi et M. Bobéro ne m'a pas du tout soutenu quand j'ai remis en question le concordat. Contrairement à ce qu'il semble dire depuis. Moi, quand j'ai posé la question de l'abolition du concordat, j'ai eu une levée de bouclier dans la commission Stasi contre moi, dirigée par M. René Raymond, grand catholique par devant l'Éternel. Bon, je peux le dire maintenant parce que je suis délié de mon obligation de réserve, la commission Stasi n'existe plus. Mais quand j'ai dit, il n'est pas normal qu'en Alsace-Moselle, les familles athées ou agnostiques soient obligées de solliciter une dérogation pour les cours de religion. Ce système de la dérogation est doublement attentatoire aux principes républicains. D'abord, il oblige les familles athées et agnostiques à proclamer leur extériorité par rapport à la religion. Or, c'est contraire à la liberté, parce que la liberté, c'est aussi la liberté de garder pour soi. Deuxièmement, c'est attentatoire à l'égalité, parce que ça veut dire que la religion est la norme et la non-religion la dérogation à la norme. Donc c'est une hiérarchisation des options spirituelles. Donc au nom de cette double atteinte à deux des premiers principes du triptyque républicain, je pose la question de la dénonciation du concordat. Ça a été une levée de bouclier au sein de la commission Stasi. Hein ? Donc, je suis parfaitement conscient des résistances. Mais en Alsace-Moselle, il y a des mouvements laïcs. J'étais invité plusieurs fois par des mouvements laïcs qui demandent l'abolition du concordat. Et je vous rappelle que pendant la campagne électorale, quand François Hollande a dit tout de suite, précipitamment, quand il a dit on va constitutionnaliser les deux premiers articles, et qu'après, il y a eu protestation des religieux, il a tout de suite fait une déclaration aux dernières nouvelles d'Alsace, selon laquelle il fallait pas qu'ils aient peur qu'on constitutionnaliserait aussi le concordat. Je rêve, mais c'est un cauchemar, parce que il vaut mieux laisser le statu quo. Hein. D'ailleurs, je l'ai écrit à François Hollande, à Jean Glavany, etc. Je leur ai dit, si c'est pour faire ça, abstenez-vous. Parce que si vous élevez le concordat dans la hiérarchie des normes en lui donnant un caractère constitutionnel, ça veut dire que vous élevez l'exception en faisant une règle constitutionnelle. Donc, il faut s'attendre aux résistances des privilégiés pour garder leurs privilèges. Moi, ça ne me fait pas peur. Il faut supprimer les privilèges. Surtout en une époque où on parle de réduire la dette publique. Parce que on nous dit qu'il faut ramener les déficits à 3%. Moi, je ne suis pas si sûr que ça, mais ça, c'est un autre problème. On n'est plus en campagne électorale. Mais si vraiment il faut ramener les déficits à 3%, commençons par supprimer le détournement de l'argent public vers des choses qui sont une affaire privée, la religion.